Rouletabille chez les Bohémiens, chapitre 5e. La page déchirée. 1. Qui sait si elle dort ou si elle est éveillée? Elle était étendue sur des lambeaux de couverture que les cigains avaient jetés là pour qu'elle y prît quelque repos, à la fraîcheur du crépuscule et sous le premier regard des étoiles. Leur cœur était à la fois joyeux et triste. Ils ramenaient vers la cité sainte leur petite reine retrouvée, mais elle restait si loin d'eux. De tout le voyage, elle ne leur avait point adressé la parole. Elle n'avait répondu à aucune de leurs questions. Une fois, elle avait tenté de s'enfuir. Elle détournait la tête quand on s'approchait d'elle. Elle ne connaissait que Zina, qu'elle malmenait du reste assez souvent, et avec laquelle elle avait de furieuses brouilleries qui se terminaient de part et d'autre par des larmes. Elle ne pleurait point devant les autres cigains, elle était trop fière pour cela, mais elle leur montrait des yeux si tristes qu'ils en avaient l'âme malade. Parfois, ils essayaient de la distraire en lui contant des histoires ou en jouant de leurs instruments bizarres un pas de danse en son honneur. Alors, elle fermait les yeux, comme ce soir. Mais qui sait si elle dort ou si elle est éveillée, la petite reine? Cette jolie tête nue, parée à la mode cigaine d'un bandeau de sequins, ce cou souple, douloureusement penché, cette attitude accablée même dans le repos qu'elle simule peut-être, cette bouche demi-ouverte comme exhalant un soupir sans fin, tout cela les intrigue sans les renseigner. Si elle ne dort pas, à quoi pense-t-elle? À quoi pense-t-elle? Elle pense à son pays, murmure la vieille Oliva entre ses dents chancelantes. Une Romanée n'a point de pays, réplique Succo d'une voix sèche en raccommodant le harnais de son haridelle. Mais Cymbalo, le chef de la tribu, un vieillard tanné à la barbe grise de poussière, dit « Severthorn deviendra la reine des nations. Avec cet enfant, elle sortira de ses ruines pour éblouir le monde. C'est écrit. » Olajaï s'arrêta de tisonner le foyer intermittent, se redressa et dit « La brume funèbre se dissipera. Attendu depuis longtemps, le beau jour luira enfin. Les frères seront réunis, tous seront grands, tous libres. Contre l'ennemi marcheront leurs rangs victorieux, tous pleins d'une pensée noble, forts d'une foi unique. » Mais il n'eut pas de succès. Ses paroles retombèrent sans écho, car il avait servi chez un roumi et l'on avait beaucoup de raisons de se méfier de lui. Alors la jeune Harry, qui n'avait pas plus de 16 ans, s'arrêta de tailler ses joncs et dit « Si elle ne dort pas, elle pense au roumi qu'elle aime. » Tous tournèrent des yeux de flamme de son côté et quelques injures sifflèrent à ses oreilles. Elle ne l'avait pas volé, mais elle ne se démonta pas. « On ne choisit pas qui on aime, » expliqua-t-elle. « Je l'ai vu, il est plus beau que Succo, par Sainte Sarah. » Quelques-uns rirent, mais Succo, qui avait des prétentions, lui lança une pierre en l'appelant Uchela, chienne. « Je te dénoncerai au grand Quers quand nous serons à Severthorn. » Cependant, Cymbalo, en leur montrant Odette endormie, les apaisa. Elle ne dormait pas. C'était bien à lui qu'elle songeait, à lui et à son père, dont elle ignorait la triste fin, et à tous ceux qu'il avait aimés. Que faisait-il? Pourquoi ne venait-il pas la délivrer? Était-ce possible une chose pareille, qu'on l'eût enlevée comme le vent emporte une plume de petit oiseau et qu'on lui eût fait franchir les frontières sous le regard de tous, sans que rien n'eût remué autour d'elle pour son salut? Était-il possible qu'elle voyageât tant de jours au fond de cette roulotte comme si c'était là une chose naturelle? Les gendarmes avaient passé, les douaniers étaient venus, ils avaient regardé, ils avaient vu et ils n'avaient rien dit. Et elle non plus n'avait rien dit. Par quel sortilège? Tout son petit être intime s'était soulevé. toute sa volonté s'était tendue pour leur crier « Sauvez-moi !» Et elle n'avait pas fait un geste, et elle n'avait pas poussé un cri, sous le regard de Zina. Cette Zina, cette méchante petite sorcière de vieille femme, elle l'avait aimée tout de suite. Quand les gamins du village se détournaient de la bohémienne en poussant des cris, quand les filles de la Camargue se sauvaient de son chemin en se signant, elle, Odette, elle était allée vers elle, poussée par on ne sait quelle force inconnue, et elle était revenue vers les carrefours où là la vieille l'attendait sans que rien n'eût été concerté entre elles. Dans cette affreuse aventure, Zina avait-elle été son bon ou son mauvais ange? Un ange, cette méchante petite sorcière de vieille femme? Tout de même, elle avait sauvé Odette. Sans Zina, Odette serait morte sous les coups de Calista et de ce sauvage d'Andrea. Qu'est-ce qu'elle avait bien pu leur dire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu leur montrer? Qu'est-ce qu'ils avaient tous à regarder sous le voile qui couvrait ses épaules? Ils l'avaient appelée leur reine, leur petite reine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait à faire avec ces gens-là? Elle était Odette de Lavardan, et voilà maintenant qu'elle était reine dans une roulotte. Tous ces bohémiens étaient sorciers. Cela, le monde entier le savait. Elle était ensorcelée. Elle avait été ensorcelée par cette méchante petite vieille de sorcière au nez crochu qu'elle détestait et qui ne cessait de la serrer sur son cœur et sur ses loques avec des soupirs. Elle la détestait, mais elle était anxieuse quand elle ne la sentait point rôder autour d'elle et quand lui manquait le refuge de ses bras tremblants et décharnés. Arrangez cela comme vous pourrez. C'est ainsi. Quand Odette silencieusement pleurait, elle sentait à ses pieds un souffle chaud. C'était Zina qui l'adorait. Odette croyait maintenant au conte de fées. Tout à coup, une sorte de tumulte lui fit ouvrir les yeux. Alors elle se redressa d'un bond et courut se réfugier dans sa roulotte en poussant un cri de bête blessée. Calista, Calista, sa plus cruelle ennemie, et Andrea le sauvage était là. Il venait d'arriver dans le cercle des bohémiens, éclairé par la flamme qui léchait les flancs d'un chaudron. Et tous les entouraient avec des paroles de bienvenue et des gestes de joie, et ils parlaient tous à la fois. Odette sentait et entendait sur son cœur battre sa frêle poitrine comme un marteau sur l'enclume. Elle s'accrochait des ongles aux parois de la baraque pour ne point s'effondrer, mais elle voulait voir. Ah, cette Calista! Cette Calista qui avait été aimée de son Jean! Que Jean aimait peut-être encore! Elle souleva le rideau de la petite lucarne, mais l'abaissa aussitôt avec un tel geste de rage qu'elle le déchira. L'autre la regardait. Enfin, elle avait ses yeux tournés vers la roulotte où Odette venait de s'enfermer. Ses beaux grands yeux, car ils étaient magnifiques, ses yeux. Plus beaux que les siens, peut-être. Mais ils étaient méchants. Mais il y a certainement des hommes qui aiment les yeux comme ça, puisque Jean les avait aimés. Jean avait embrassé ces yeux-là, comme il avait embrassé les siens. Jean lui avait menti. Elle n'aimait plus Jean. Et elle, cette Calista, elle eût voulu la tuer, la faire souffrir, lui arracher des yeux. Elle poussa un cri en reculant d'horreur. Calista, suivie d'Andrea, se dirigeait vers la roulotte en riant. Elle se rua sur la porte en appelant « Zina ! Zina !» Que faisait donc Zina ? Sans Zina, elle était perdue, elle était morte. Et ce n'était pas cet Olajei, ce mystérieux Olajei, qui ne cessait depuis le commencement du voyage de la regarder à la dérobée sans jamais lui adresser la parole, cet Olajei dont tout le monde se méfiait ici et dont la figure ne lui était pas tout à fait inconnue. Où donc l'avait-elle vu autrefois? Il y avait des mois, des années peut-être. Non, assurément, ce n'était pas lui qui se jetterait pour la sauver entre cette Calista et la prisonnière, comme avait fait Zina, car il était inquiet, timide, semblant avoir peur de tout, même de la regarder de loin à la dérobée, avec pitié. « Zina !» gémit encore Odette derrière sa porte. Et tout à coup, elle entendit la voix de Zina. Odette se précipita à la lucarne de la roulotte. Il y avait là comme une réunion de démons autour de Zina affolée. La flamme du foyer devant eux grandissait et agitait leurs ombres fantastiques sur l'écran épais de la forêt. Et de cette forêt, sous le couvert de laquelle on apercevait d'autres feux éclairant d'autres roulottes, d'autres ombres accouraient. La silhouette immense des bras décharnés de Zina semblait appeler tous les cygains du camp pour leur montrer un point de l'horizon menaçant du côté de l'auberge. Maintenant, ils parlaient tous à la fois, et Sumbalo, le chef de la tribu, avait la plus grande peine à se faire entendre. Odette ne comprenait point ce qu'ils se disaient dans leur langage odieux, déchirant comme une musique de cuivre, mais leur émoi, à tous, attestait un danger pressant. Oliva en tremblait sur ses vieilles guiboles. Harry tendait vers le ciel des mains qui semblaient supplier la divinité, et Succo, le forgeron, fermait des poings prêts à frapper. Quant à Andrea et à Calista, ils se regardaient en écoutant la vieille. Ils fronçaient terriblement les sourcils, et une même pensée semblait les habiter tous les deux. Nul ne faisait plus attention à Olajei, qui, dissimulé derrière un arbre, ne perdait pas un mot de ce qui se disait. Calista aperçut soudain sa figure sournoise qu'un reflet brusque de la flamme fit surgir des ténèbres. Il fit un mouvement comme pour se dérober, mais elle avait déjà sauté sur lui. Le recommandait à Andrea, qui le faisait dardard rentrer dans le cercle des bohémiens, puis, après avoir jeté à la foule des compagnons quelques paroles brèves, elle s'enfonça dans la nuit, du côté de l'auberge. 2. Celui qui frappait à la porte de l'auberge. Rouletabille allait beaucoup mieux depuis qu'il avait reçu la visite de la vieille rebouteuse Sigène. Il ne sentait plus son épaule, elle ne le brûlait plus. Son pied lui-même ne lui faisait plus mal. Toute douleur physique semblait avoir disparu, tant son allégresse intime était profonde. Il s'était glissé à bas de son lit, et, derrière la fenêtre, son regard passait au-dessus de la cime des sapins, allait rejoindre dans la clairière les ombres qui s'agitaient autour des feux dans la forêt. Zina. C'était Zina qu'on lui avait amenée, qu'il avait soignée à sa mode, en l'étourdissant tout d'abord de ses curieuses invocations. Quand elle avait cessé sa mystérieuse prière, à l'on ne sait quels dieux infernaux, il lui avait demandé son nom, ce qui était la façon la plus simple de le savoir. Elle avait répondu qu'elle s'appelait Zina. Il n'avait pas bronché, et pendant qu'elle le massait avec une science séculaire, comme il l'avait habilement interrogé pour être bien sûr que c'était cette Zina-là, il avait bien fallu tout de même qu'elle lui avouât qu'elle venait, comme tant d'autres, des Saintes Maries de la mer. Et quel émoi elle avait marqué, bien qu'il fît tout pour le dissimuler, quand il lui avait dit quelques mots du drame de Lavardan, qu'il prétendait avoir lu le matin même dans un journal. Ah, ça n'avait pas traîné. Elle n'avait pas demandé son reste. Elle lui avait bandé l'épaule en deux temps trois mouvements, et elle s'était envolée dans la nuit comme une vieille chouette. Peut-être aurait-il dû être plus prudent, mais il fallait être sûr, sûr que c'était Zina. Car Zina, c'était, à quelques pas de là, Odette. Maintenant, il ne la lâcherait plus, la pauvre petite prisonnière, elle et la troupe qui l'emportait. Et sa délivrance serait une question de 24 heures, le temps de faire prévenir les autorités de New Watcher. Quoi de plus simple? Il fit monter à cette intention le patron, Maître Otto, un Suisse allemand, épais, et qui paraissait toujours dormir à moitié, si bien que pour l'éveiller tout à fait, il n'était rien de tel que de lui prouver que, par ces temps difficiles où la monnaie fiduciaire avait pris une importance mondiale, on ne voyageait point sans un portefeuille bien garni de belles bonnes devises qui n'avaient été imprimées ni à Vienne ni à Moscou. Cependant, celui-ci fit comprendre à son généreux client qu'il serait tout à fait impossible de déranger ces messieurs avant le lendemain matin. Fâcheux contre-temps. Rouletabille n'en prit pas moins ses précautions pour que ces « messieurs » fussent prévenus le plus tôt possible. En attendant, il ne devait compter que sur lui, comme presque toujours. L'arrivée qu'il prévoyait imminente au camp des Bohémiens, de Calista et d'Andrea, ne l'inquiétait pas trop. Ceux-ci devaient être bien tranquilles maintenant sur son compte. Ils devaient le croire très amoché après l'aventure du train, peut-être mort, mis en bouillie par un convoi suivant. En tout cas, il pensait être débarrassé de Rouletabille pour longtemps. Le reporter se rééquipa, arma son revolver. Il évitait de s'appuyer sur le pied gauche, qui de nouveau lui faisait mal, et il s'aperçut avec effroi qu'à moins de marcher à cloche-pied, il ne pourrait aller tout de suite jusqu'au camp qu'il avait l'intention de surveiller de près. À ce moment, passa sous sa fenêtre le petit berger qui l'avait aidé à atteindre l'auberge. Il ouvrit la fenêtre, l'appela, et lui fit comprendre qu'il y aurait une bonne récompense pour lui s'il voulait être attentif à tous les mouvements que feraient les Bohémiens, et venir l'avertir dès qu'ils prendraient leur disposition pour se transporter ailleurs. À peu près tranquille de ce côté, il se massa le pied et commença de se le bander fortement. C'est à ce moment que la porte de l'auberge retentit sous les coups frappés de l'extérieur. Il se traîna encore à sa fenêtre et regarda. L'homme qui secouait Luis était enveloppé d'un grand manteau et sa tête était cachée sous un feutre à large bord. Rouletabille tressaillit. Un instinct sûr l'avertissait que cette arrivée nocturne de l'inconnu n'était point étrangère au drame qu'il avait lui-même transporté à New Watcher. Il rassembla toutes ses forces et descendit. Du reste, depuis que son pied était bandé, il pouvait s'appuyer dessus, et la douleur était supportable. D'autre part, le baume dont la vieille sorcière l'avait frotté commençait à produire son effet. Son épaule allait de mieux en mieux, et il pouvait déjà remuer le bras. Les sorcières ont du bon. Il descendit et pénétra dans la salle de l'auberge, au moment où le patron, une lampe à la main, après avoir parlementé avec celui qui frappait à l'extérieur, ouvrait la porte. Le visage du nouvel arrivant apparut en plein, c'était Hubert. Stupéfait, Rouletabille recula dans l'ombre, mais Otto avait refermé la porte après avoir posé la lampe sur la table. Hubert paraissait exténué. Il se laissa tomber sur une chaise, jeta son chapeau et dit « J'ai faim ». Dans un mauvais français, mêlé de mauvais allemands, on lui répondit qu'il arrivait tard et qu'on n'avait que des restes à lui donner. Il se jeta dessus et les dévora. Quand sa faim fut un peu apaisée, il dit « Il y a longtemps que vous avez tous ces bohémiens dans le pays ?»« Depuis 2 jours, » répondit l'autre, « et je voudrais les voir aux 500 diables. Ils m'empêchent de dormir la nuit. »«
Comment cela ?»«
J'ai peur qu'ils me volent. » Ces gens-là sont capables de tout. Cependant, je dois reconnaître que jusqu'à ce jour, tout ce qu'ils m'ont pris, ils me l'ont payé.
Qu'est-ce qu'ils font ici ? Demanda Hubert.
Vous le leur demanderez, ils ne sont pas bavards. Je vais vous le dire, moi, ce qu'ils font ici,
fit une voix dans l'ombre.
Hubert tourna brusquement la tête du côté de la voix. Alors Rouletabille s'avança, la main tendue. « Bonjour, monsieur de Lauriac. »
Hubert se souleva comme galvanisé.
« Vous ? Vous ? Ici ? Vous y êtes bien ? Pourquoi n'y serais-je pas ?»
fit Rouletabille en approchant un escabeau auprès de la table et en commandant une bouteille de vin du Rhin.
« Du Redesheimer, ce que vous avez de meilleur. »
Et pendant que maître Otto était descendu à la cave, il dit à Hubert «
Vous avez eu tort tout à l'heure de ne pas me serrer la main, monsieur de Lauriac, car nous sommes une paire d'amis, ou tout au moins nous allons le devenir. Voulez-vous que je vous dise ce que ces bohémiens sont venus faire ici ?
Inutile,
répliqua Hubert d'une voix sourde et avec un regard hostile du côté du reporter. « Je le sais. »
« Et c'est sans doute pour cela que nous avons le plaisir de nous rencontrons ici !»
reprit le journaliste avec son sourire le plus gracieux.
« Tout le plaisir est pour vous !» répliqua Hubert en grognant comme un ours.
Rouletabille éclata de rire.
« Il n'y a décidément pas moyen de vous prendre, ni avec les mains, ni avec des pincettes, ni de près, ni de loin. Ah, vous m'en voulez bien !»«
Vous m'avez fait prendre avec des menottes !» lui jeta l'autre. « Je ne l'oublie pas. »«
Ça se voit. Mais ces menottes-là, c'est moi qui les ai détachées. Voilà ce que vous oubliez. Monsieur de Lauriac, jouons franc jeu. Nous sommes ici tous les deux dans le même dessein. Nous poursuivons le même but. Vous, pour vous-même, moi, pour mon ami Jean. Associons-nous, c'est ce que nous avons de mieux à faire. » Tout d'abord, nous avons intérêt l'un et l'autre à arracher Odette des mains de ces brigands. Voilà qui prime tout. Nous causerons après. Qu'en pensez-vous ?
À ce moment, l'autre est apparu avec sa bouteille, et dehors, son chien aboya.
« Je pense que c'est encore ces maudits bohémiens qui rôdent autour de mon clapier, » fit-il.
Il se dirigea vers la fenêtre, l'ouvrit sur une nuit opaque, et redevenue soudain silencieuse.
« Laissez la fenêtre ouverte, » pria Rouletabille. « On étouffe ici !»
Le patron alluma une lanterne et dit « Excusez-moi, je vais faire un tour. » Quand il fut parti,
« Eh bien ?» demanda Rouletabille.
« Eh bien, » répondit Hubert,
« j'ai réfléchi, ça va. »
Il avait surtout réfléchi qu'il ne pouvait faire autrement que d'accéder à la proposition du reporter. Sans doute étaient-ils aussi gênés l'un que l'autre de se rencontrer en cet endroit où chacun d'eux avait bien espéré arriver tout seul. Mais enfin, leur alliance momentanée aurait au moins cet avantage immédiat qu'ils pourraient se surveiller.
« Alors, amis ?»
fit Rouletabille en tendant à nouveau sa main.
« Ami !»
Et l'autre la lui serra.
« Ah ça ! Comment vous trouvez-vous ici ?» questionna Rouletabille, assez intrigué, car tous ses calculs, raisonnements et déductions avaient envoyé Hubert sur la route directe de Severthorn.
« Eh bien, et vous ?» interrogea Hubert, qui, malgré les dernières protestations d'amitié, n'avait nullement l'intention de se livrer.
« Écoutez, » commença le reporter, « ne jouons pas au plus fin, je le serai plus que vous. Vous êtes assez intelligent pour n'en pas douter. Il faut que nous soyons persuadés de part et d'autre que nous n'arriverons à rien de bon si nous nous tirons dans les jambes. Les bohémiens en profiteraient.
« Bah !» répliqua l'autre d'un air détaché. « Que pourraient-ils faire maintenant que nous les avons rejoints ? Il faudra bien qu'ils nous livrent Mademoiselle de Lavardan. Dès demain matin, j'avertis les autorités. »«
Inutile !» reprit Rouletabille. « J'ai déjà alerté New Watcher. Toutefois, il ne faut pas se leurrer. L'affaire ne sera peut-être pas aussi simple que vous le croyez. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. D'abord, c'est le métier des bohémiens de rouler les autorités. Et puis, nous allons nous trouver aux prises avec deux personnages sur lesquels vous ne comptez certainement pas.
Qui donc ?
Mais Andrea et Calista.
Andrea et Calista ? S'écria Hubert.
Mais je les croyais en prison.
Je les en ai fait sortir.
Vous ?
Et pourquoi avez-vous fait une chose pareille ? Vous avez donc oublié qu'ils ont juré qu'ils ne rendraient Odette que morte ?
« J'ai fait une chose pareille parce que j'ai voulu qu'ils me montrent eux-mêmes le chemin par où on la conduisait. »«
Alors, vous les avez suivis ?»«
Mon Dieu, oui. »«
Oh, ça, c'est trop fort !»«
Mon Dieu, ça n'est pas mal, » acquiesça Rouletabille, modeste. « Et maintenant que je vous ai tout dit, c'est à votre tour de parler. Je vous écoute. Vous étiez parti pour Severthorn, n'est-ce pas ?»«
Comment le savez-vous ? »
Le résultat de quelques déductions.
Ah, ne soyez pas étonné pour si peu, et mettez-vous tout de suite cela dans la tête, que ce que je ne sais pas maintenant, je le saurai demain.
Alors, pas la peine de perdre de temps, n'est-ce pas ? Hubert considéra Rouletabille un instant en silence. Tant d'assurance le démontait un peu. Parlait-il sérieusement? Enfin, il se décida. « Eh bien, je ne vois aucun inconvénient à vous dire que j'étais parti, en effet, pour Severturn, dans le dessein de voir le patriarche que je connais. Vous n'ignorez pas que le patriarche de Transbalkanie est le chef religieux et même, si l'on peut dire, le directeur politique de toute la race romanée. En tout cas, l'immense majorité des bohémiens le considère comme tel. Le poste qu'il occupe lui confère un pouvoir exceptionnel. Il n'est guère de Siguin qui, au moins une fois dans leur vie, n'ait fait le pèlerinage de Severturn. De même qu'il n'est guère de Mahométan qui, avant de mourir, n'ait voulu voir la Mecque. En fait, étant tout puissant sur les fanatiques, un mot de lui pouvait faire beaucoup de choses. J'allais le supplier d'intervenir dans l'affaire de Mademoiselle de Lavardan, lui montrant le danger d'un rapt aussi audacieux, la répercussion néfaste qu'un tel procédé pourrait avoir pour les Romanais dans toute l'Europe. Parfait. Compris. Interrompit Rouletabille, sérieux comme un pape. Je connais maintenant les raisons pour lesquelles vous allez à Severturn. Et alors ? Et alors, je ne me trouvais plus qu'à 24 heures de marche du patriarcat quand je rencontrai sur la route un Siguin à cheval qui arrivait, lui, de Severturn. Il paraissait très fatigué de l'étape qu'il avait fournie. Nous nous arrêtâmes donc dans une auberge et nous causâmes. Il faut vous dire que pour me rendre à Severturn et pour traverser un pays que je savais hostile de parti pris à tout étranger, j'avais revêtu une des frocs bohémiennes. « Bonne précaution !» fit Rouletabille. « On voit que vous savez voyager. » Cet homme, malgré sa fatigue, était dans une sorte de jubilation sacrée, et il m'invita à me réjouir avec lui. Il me dit que les temps étaient proches et que Severturn allait bientôt avoir sa petite reine. Je le laissai divaguer, ne prêtant qu'une oreille distraite à ses propos fanatiques. Puis il prononça deux noms qui me firent tressaillir, Andrea et Callista. Il me demanda si je connaissais cet Andrea. Je lui répondis que je le connaissais certainement, qu'il était de mes bons amis et que nous avions fait ensemble, quelques années auparavant, le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer. Bref, j'acquis si bien sa confiance qu'il me révéla que cet Andrea et cette Callista étaient chargés de ramener à Severturn la Keira. Ainsi le patriarche a-t-il baptisé celle que l'on cherchait, celle qui était attendue, enfin l'envoyée de Dieu. La Keira correspond en langue siguène au Messie. Enfin, le grand prêtre avait chargé ce bohémien d'aller porter à Andrea et à Callista certaines instructions secrètes à New Watcher même, où il devait se trouver pour le moment. On ignorait donc encore au patriarcat l'arrestation des deux Romanichels? C'est ce que je me dis. Ce que je ne pourrais vous décrire, par exemple, c'est l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, moi, après cette confidence. Me souvenant des aveux d'Andrea et de Callista, je ne pouvais douter un instant que la jeune fille que ces brigands de Siguin amenaient à Severturn fût Mademoiselle de Lavardan. Mais alors, qu'est-ce que c'était que cette histoire de petite reine? La fille des Lavardans, reine des Bohémiens? Je n'y comprenais absolument rien, et je n'y comprends rien encore. Moi non plus, fit ingénument Rouletabille. Voilà qui est tout à fait singulier. À ce propos, monsieur, vous qui avez fréquenté beaucoup au vieux château neuf, et qui avait pu voir Mademoiselle de Lavardan en toilette de soirée, avez-vous remarqué qu'elle eut un signe sur l'épaule ?
J'ai remarqué qu'elle n'en avait aucun, déclara Rouletabille. Mais pourquoi me posez-vous cette question ?
Et pour rien, ou plutôt si. Je me rappelle que le bohémien que je laissais seul continuer son chemin, bien décidé que j'étais à arriver ici avant lui par une autre route, je me rappelle que cet homme m'a dit que les Romanais des Saintes Maries avaient pu retrouver leur petite reine grâce à ce signe qu'elle a sur l'épaule gauche.
Et voilà pourquoi je vous demande si vous êtes bien sûr que mademoiselle de Lavardin n'a aucun signe.
Aucun, je vous assure, elle a l'épaule aussi blanche que la neige. Du moins autant que le chaste décolleté d'une jeune fille me permette de l'affirmer.
Mais entre nous, aurait-elle un signe sur l'épaule, cela ne serait point suffisant, j'imagine, pour faire une cigaine de l'héritière des Lavardin.
Monsieur, je n'ai fait que vous répéter ce que cet homme, dans son exaltation, m'a raconté.
Et vous avez bien fait, monsieur, car il résulte au moins de cette étrange histoire la nécessité pour nous de sauver au plus tôt mademoiselle de Lavardin de cette bande de fanatiques.
Évidemment, laissa tomber Hubert, soudain rêveur. À ce moment, les aboiements des chiens reprirent. Rouletabille se glissa jusqu'à la fenêtre et scruta les ténèbres déjà moins épaisses de la nuit.
3. Où Olajaï se repent d'avoir trop parlé et où il se venge en parlant davantage. Au camp des Bohémiens, profitant de l'absence momentanée de Calista, la vieille Zina avait couru à la roulotte où elle avait retrouvé Odette, tremblante, pleurant d'effroi, épouvantée de l'arrivée subite du couple cigain.
Que se passait-il? Pourquoi Andrea et Calista les avaient-ils rejoints? Quel nouveau danger couraient-elles?
Elle avait encore la vision de la scène de la grotte, de ce couteau levé dont cette fille l'avait si atrocement menacée. Zina la prit dans ses bras, couvrit ses mains de baisers, essayant de la rassurer, lui jurant qu'elle était une petite chose sacrée à laquelle nul n'oserait toucher. Est-ce que, depuis qu'elle était avec eux, elle avait eu à se plaindre de mauvais traitements? Est-ce qu'au contraire, elle n'avait pas eu tout le monde à ses pieds, comme aux pieds de Sainte-Sarah? Est-ce qu'on n'avait pas tout fait pour la distraire? Et les danses du soir, et le chant des guitares, est-ce qu'elle n'était pas leur petite reine?
Ne pleure pas, ne pleure pas. Là-bas, une grande surprise t'attend. Devant toi, les portes s'ouvriront, et sur ton passage, tu ne verras que des têtes inclinées.
Elles parlaient toutes deux à la fois. Odette, répondant à ses caresses en la griffant et en répétant pour la millième fois qu'elle voulait retourner à Lavardin, la vieille sorcière continuant sa prophétie dans une extase qui la rendait insensible aux outrages de cet enfant. Soudain, elle descendit de son trépied, car la voix de Calista se faisait de nouveau entendre et le tumulte recommençait de plus belle autour de la roulotte. Zina recommanda à Odette de ne pas bouger et descendit. Mais Odette courut aussitôt à son observatoire et se risqua même à entr'ouvrir le carreau de sa lucarne dans l'espérance qu'elle pourrait saisir quelques mots qui lui révéleraient la signification de cette agitation inopinée des bohémiens. Au fond de son cœur, elle se disait qu'on venait peut-être la délivrer. C'était son unique pensée. Celle qui la faisait se réveiller en sursaut, la nuit, et écouter tous les bruits mystérieux de la campagne. Ah, quand sortirait-elle de cet horrible cauchemar? Et tout à coup, voilà qu'un mot, un nom, prononcé par une bouche cigaine, vint frapper son oreille. Rouletabille. Elle faillit jeter un cri tant la surprise avait été forte. Rouletabille? Rouletabille? Ah! Maintenant elle ne tremblait plus d'effroi, mais d'espérance. Rouletabille. Le nom venait d'être répété tout près de là par Calista, qui tenait un conciliabule assez orageux avec Andrea et Sombalo. Celui-ci venait de donner des ordres pour que le camp fût levé immédiatement, en même temps qu'il faisait avertir toutes les roulottes du danger que courait l'enfant sacré. Or, Calista, dans une langue qu'Odette ne comprenait pas, expliquait au contraire au vieux chef de tribu qu'ils ne devaient pas bouger, que s'ils s'enfuyaient tous, ils étaient perdus et qu'on finirait bien par les rattraper, car ils étaient là en tout une centaine, dans cette forêt, qui n'avaient point la prétention de passer inaperçus, surtout de Rouletabille. Calista, mise en éveil par Zina, était allé rôder autour de l'auberge et avait reconnu à la fenêtre de la salle basse leur plus redoutable ennemi. Et ils ne s'en débarrasseraient donc jamais. Dans quelques heures, au point du jour, peut-être, il serait là, ayant pris toutes ses dispositions pour leur enlever Odette. Il n'avait qu'une façon de se tirer de ce pas dangereux, c'était de se montrer plus rusé que lui. Et pour cela, il n'y avait qu'une chose à faire. Le vieux Sumbalo et toute la bande des Tsigans l'attendraient de pied ferme, tandis qu'elle, Calista, accompagnée d'Andrea, s'éloignerait rapidement avec Odette, jetée au fond d'une autre roulotte qui prendrait de l'avance et ne voyagerait que la nuit. Il n'y avait pas un moment à perdre. Le camp était déjà peut-être surveillé. Le vieux Sumbalo fut enfin convaincu. De nouveaux ordres furent transmis, auxquels les bohémiens n'obéirent du reste qu'à leur corps défendant et après 1000 protestations. Certains faisaient entendre des paroles de rage et de menaces. Enfin, un nouvel incident acheva de déchaîner la colère générale. Olajei, profitant de l'inattention d'Andrea, s'était enfui. L'amoureux de Calista s'en aperçut au moment où l'ancien domestique de Rouletabille venait de sortir sournoisement du cercle éclairé par les feux. Il jura, cria « Olajei !» et Calista comprit. Tous deux bondirent, d'autres les suivirent. Il fallait rattraper le faux frère, coûte que coûte. Ah, Olajei pressentait que son compte était bon, maintenant que Rouletabille était signalé dans les environs, et il n'avait plus pensé qu'à se soustraire au mauvais destin qui l'attendait. Peut-être même allait-il avertir Rouletabille. Calista commanda à Andrea « Cours, prends ce sentier qui coupe la route de l'auberge !» Et elle dirigea les poursuites avec une stratégie étonnante, encerclant le malheureux, le forçant à bondir de fourré en fourré comme une bête traquée, et à aller finalement se jeter dans les bras d'Andrea, qui le guettait derrière un arbre. Andrea l'étreignit comme s'il allait l'étouffer, le broya dans ses bras puissants et le ramena au camp plus mort que vif, loque humaine, à peine palpitante encore, qu'il jeta au milieu des Tsigans en leur disant « Je vous fais cadeau de celui-là. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est un traître. S'il n'avait pas parlé, nous n'en serions pas là. C'est lui la cause de tous nos malheurs. Si l'on vole un jour notre reine, c'est lui qui l'aura voulu. » Il y eut une sorte de rugissement autour d'Olajei, qui se souleva, essaya de se remettre sur ses pieds, se redressant dans une épouvante sans nom. Un coup de poignard dans le dos l'abattit, le fit rouler à terre. Dans la roulotte où elle était encore, continuant d'observer dans une fièvre grandissante ce qui se passait, Odette poussa un cri d'horreur. Mais, dans le même instant, la porte de sa prison ambulante s'ouvrit et Andrea se précipita sur elle, l'enveloppa dans une couverture, l'emporta comme si elle n'eût pas pesé plus qu'une plume. Zina, avec des gestes de folle, courait derrière le Tsigan en silence. Calista suivait. Quelques minutes plus tard, il se déroulait là, dans ce coin de forêt, autour d'un feu dont le fanatisme millénaire d'une race qui ne connaît point de limite à la vengeance avait ranimé les cendres. Il se déroulait là une scène qui aurait demandé pour être reproduite dans tout son relief d'étrange et de puissante horreur le burin d'un Goya. Des êtres fantastiques, démons, larves ou monstres grouillaient autour des brasiers qui faisaient roussir de la chair humaine. Une odeur abominable, dont ces êtres échappés d'un autre monde semblaient s'enivrer, montait sous le couvert des bois. La jeune Harry, aux beaux yeux clairs qui reflétaient ses 15 printemps, était étendue sur l'herbe, le menton dans ses mains dorées, et souriait au supplice d'Olajei. Celui-ci n'était point mort du coup qu'il avait frappé, et il devait bien le regretter, tandis qu'on lui grillait consciencieusement les pieds. Pour ne point entendre ses vaines protestations, la vieille Oliva, en lui souriant de ses 3 dents chancelantes, lui avait enfoncé un coin de son châle dans la bouche. Sumbalo, assis sur une marche de la roulotte, présidait en silence à l'exécution avec une gravité majestueuse que lui eût enviée le grand inquisiteur. Une douzaine de marmots sautaient autour de cette petite réjouissance privée avec des bonds singuliers comme de braves petits poux de la route qu'ils étaient. Succo, le forgeron, tenait si fortement les chevilles du patient que celui-ci semblait y mettre de la complaisance. Succo avait des mains de bronze qui ne craignaient point le feu, mais les pieds de la jaillie, qui s'étaient attendris au service des roumis, fournissaient à la flamme toute la graisse désirée. Harry se mit à chanter. Les cimes des pins commençaient à sortir de la nuit comme de longs fantômes blêmes, et l'horizon se barrait à l'orient d'une ligne verdâtre, sinistre, quand le petit pâtre, que Rouletabille avait envoyé en observation, accourut à l'auberge. Il avait assisté de loin, accroché comme un écureuil à la branche d'un arbre, au supplice du bohémien, spectacle qui l'avait prodigieusement intéressé. C'était un brave petit cœur, tout près de la nature, bon pour les animaux qu'il chérissait comme s'ils étaient de sa famille, mais curieux comme on l'est à cet âge. Il ne s'était arraché à cette distraction exceptionnelle que lorsqu'un mouvement général de la bande, la précipitation avec laquelle on attenait les haridelles, l'avait averti que les cigains se disposaient à quitter New Watcher et ses environs. Il craignit que la récompense promise ne lui échappât, et il courut d'une traite à l'auberge. Il n'était pas plus de 3h30 du matin. À cette époque de l'année, les nuits sont courtes. La porte de l'auberge était entr'ouverte, et dans la cour il trouva Rouletabille, en train de faire un prix à maître Otto pour pouvoir disposer pendant 24 heures des deux courageuses carnes qui, depuis 15 ans, lui servaient de bêtes à tout faire. Otto prétendait en avoir besoin ce jour-là et ne pouvoir les céder pour rien. Rouletabille proposa une somme qui mit tout le monde d'accord, et sans plus attendre, il sauta en selle. Il avait fait appeler Hubert, qui procédait dans sa chambre à des soins de toilette. Quand celui-ci parut et qu'il vit la bête qui lui était destinée, il fit une curieuse grimace. « Nous n'avons pas le choix, » lui jeta Rouletabille. « En route, les bohémiens déguerpissent déjà !» Le reporter avait absolument voulu des chevaux parce qu'il se jugeait encore trop peu ingambe pour se risquer à pied dans une pareille aventure. Et puis il ne tenait pas non plus à ce que Hubert s'aperçût trop de son état d'infériorité. Le petit pâtre trottait devant eux. Quand il vit à l'orée de la forêt, l'enfant indiqua d'un geste le chemin à suivre pour arriver par le plus court au campement des bohémiens. Puis il réclama son dû et partit comme un lièvre. Quelques minutes plus tard, les deux cavaliers étaient arrêtés par des plaintes, des gémissements sourds. Ils mirent pied à terre, attachèrent leurs bêtes et avancèrent sous bois, avec force précaution. Ainsi arrivèrent-ils sur les lieux du campement. Les roulottes avaient déjà disparu, mais les cendres des feux étaient encore chaudes. Il n'y avait là âme qui vive. Cependant, les plaintes, qui un moment s'étaient tues, avaient repris de plus belle. Rouletabille fit quelques pas dans un fourré, écarta des branches et appela Hubert. À eux deux, ils sortirent de là une pauvre créature qui perdait son sang par plusieurs blessures et qui était incapable de se soutenir. Rouletabille poussa un cri « Oh la jaillie !» Et c'était un cri d'horreur, car il venait de découvrir l'état effroyable dans lequel on lui avait mis les pieds. L'autre avait ouvert les yeux. Il reconnut son maître, lui adressa un triste sourire et entr'ouvrit les lèvres comme pour demander à boire. Rouletabille lui mit sa gourde entre les dents et le fit boire, tandis qu'Hubert lui soulevait la tête. Un ruisseau coulait près de là. Rouletabille envoya Hubert y tremper un linge, et, soutenant à son tour le bohémien, il lui dit « C'est à cause de moi qu'ils t'ont frappé. » L'autre fit un signe de la tête. Hubert revenait rapidement. « Méfiez-vous, » souffla le cigain. « Un jour, ils vous en feront autant. Retournez là-bas, Paris. » « Et mademoiselle de Lavardan, interrogea anxieusement le reporter. L'autre secoua la tête. « C'est la petite reine, ils ne la rendront jamais !» À ce moment, Hubert s'agenouillait près du blessé et s'apprêtait à lui laver ses blessures. Il entendit les derniers mots prononcés par le Tsigane, et il tressaillit. Rouletabille s'aperçut de l'émoi d'Hubert. « Écoute, Olajaï, fit-il, ne désespère pas, nous pourrons peut-être encore te sauver. Nous allons t'envoyer immédiatement du secours, mais mon ami et moi, il faut que nous rejoignions tout de suite les roulottes. Elles ont suivi cette route, n'est-ce pas ?» Olajaï se souleva dans un effort suprême. Le feu de la vengeance brûlait dans ses derniers regards. « Ils l'ont emporté d'un autre côté. »«
Qui, il ? Andrea ? Calista ?
Ezina ! Mais je puis vous dire, où ils doivent tous se rencontrer. » Un moment, il referma les yeux comme s'il allait expirer. « Olajaï ! Olajaï ! » s'écria Rouletabille. « Où doivent-ils se rencontrer ?» Le blessé laissa passer un nom dans un souffle qui ressemblait déjà à un râle. « À Temesvar Peste !»«
Partons !» cria Rouletabille à Hubert. « Temesvar est trop près de Severturn, et si Odette pénètre dans Severturn, elle n'en sortira jamais. »
À la grande stupéfaction du reporter, Hubert lui répondit « Allez toujours, je vous rejoindrai. Je ne peux laisser ici ce pauvre homme. »
« Adieu, Olajaï !» dit Rouletabille en jetant à Hubert un regard plein de méfiance et de menace, et il disparut sous bois.
Il jugeait le bohémien perdu, et au surplus, il n'était pas venu si loin pour sauver Olajaï, bien que celui-ci l'eût toujours fidèlement servi. Avant tout, il importait de ne pas perdre la piste d'Odette. Le malheureux Olajaï était le premier sacrifié. Il y aurait d'autres victimes. N'était-il pas lui-même désigné? Cette entreprise s'annonçait redoutable et cruelle. Il fallait se faire un cœur d'airain. Resté auprès du bohémien, et sûr de ne pas être dérangé par Rouletabille, Hubert continua âprement de l'interroger. Dans la gourde de Rouletabille, il y avait de l'eau. Dans celle d'Hubert, il y avait du feu, un alcool qui ranima singulièrement le supplicié. Celui-ci ne pensait encore qu'à son maître. « Il a été si bon pour moi. Une fois, il y a des années, il m'a sauvé la vie. Je lui donne la mienne. Mais qu'il prenne garde. Je l'ai déjà averti en Camargue, et j'ai averti aussi la pieuvre quand elle est venue. »
« Qui est-ce, la pieuvre ? » interrogea Hubert.
« Ah, vous ne savez pas. Une amie de mon maître et de Calista, elle est venue au Sainte-Marie. Elle voulait voir Calista. Je l'ai conduite partout où on avait vu Calista. Mais la pieuvre m'avait promis en retour d'emmener Rouletabille. Loin d'Odette. Ah, si j'avais su, quand elle est venue à la maison, là-bas, à Paris. »
« Qui ?
Odette ! Ils sont tous fous de cette Odette. Ah, ça leur portera malheur. »
Odette est allée à Paris ?
Oui.
Chez Rouletabille ?
Oui.
Il y a longtemps ?
Non, vous êtes son amie, et lui, voyez-vous, il faut qu'il l'oublie. C'est la reine annoncée par les Écritures.
Mais elle n'a pas le signe sur l'épaule, fit entendre Hubert en dévorant le bohémien du regard.
Si, fit l'autre, elle a le signe sur l'épaule, le signe de la couronne.
Et il se souleva pour regarder Hubert à son tour.
« C'est à cause d'elle que je meurs. J'en ai trop dit. »«
Mais mademoiselle de Labardan n'est pas une tsigane !» protesta encore Hubert haletant.
« C'est une tsigane de pure race. J'ai connu Saraya, sa mère, sa vraie mère. Monsieur de Labardan a vécu à Severturn. Là, il s'est marié, à notre mode. » La Raya est morte en mettant au monde une enfant qui a été nourrie par Zina. Zina vous dira tout. Zina sait tout. Le père s'est enfui avec l'enfant, comme c'était écrit. Cet enfant, c'était Odette.
Hubert se redressa d'un bond et se mit à courir du côté de l'auberge, laissant le pauvre Olajaï agoniser tout seul. Heureusement pour lui,
une charrette passait. 4. Au secours, mon petit zoo. Depuis que Calista et Andrea leur avaient enlevé Odette, les bohémiens n'étaient point tranquilles. Non qu'ils n'eussent une pleine confiance dans les deux Siguins, et surtout dans Zina qui les accompagnait. Mais ils redoutaient pour leur petite reine une méchante aventure qui la sépara d'eux à jamais. Jusqu'alors, ils lui avaient formé une escorte sûre, qui n'avait fait que se renforcer au fur et à mesure qu'ils avançaient vers l'Orient. Cette escorte était un honneur pour eux, en même temps qu'une grande sécurité pour la race. Ils auraient massacré 1000 roumis avant de livrer leur reine. Maintenant, elle était quasi sans défense, et ils savaient qu'ils allaient avoir à compter avec leur pire ennemi, ce Rouletabille, qui avait 100 tours dans son sac, qui était le plus malin des gâchis, étranger à la race, et qui leur avait déjà donné bien du fil à retordre. Malgré tout ce que pouvait leur raconter ce Mbalo, ils n'auraient jamais dû abandonner cet enfant sacré. Qu'est-ce que dirait le grand Kers, le grand chef, celui qui porte le fouet en sautoir pour flageller le monde, et le patriarche, s'il arrivait malheur à la Kera? Il serait tenu pour responsable de la catastrophe et châtié par le fer et par le feu, comme il le méritait. Le supplice d'Olajei ne les amusait plus. La fièvre de partir les avait possédés. Ils avaient entouré Sumbalo et celui-ci avait dû leur céder. Au surplus, le chef de tribu n'était pas lui-même sans inquiétude. Ils étaient donc partis en pagaille. Se heurtant, se bousculant, accrochant les unes aux autres leurs roulottes, laissant derrière eux cette loque humaine qu'ils avaient jetée dans un fourré sans plus s'en préoccuper. Ils allaient retrouver leur petite reine. Et ils fuyaient Rouletabille. Mais Rouletabille ne les suivait pas. Instruit par les quelques mots qu'il avait pu arracher à Olajei, il suivait les traces séparées d'une roulotte qui avait fait un détour pour s'écarter le plus possible de la grande route. Il y avait près de 2 heures qu'il conduisait ainsi son cheval par les sentiers les plus difficiles, se demandant comment une méchante voiture avait pu passer sans verser dans de pareilles ornières, quand tout à coup il aperçut, à 100 mètres de là, le toit de la roulotte qu'entourait une épaisse futaie. Elle était arrêtée. Andrea et Calista devaient se croire là en sécurité, au moins pour quelques heures, et ils devaient faire reposer leurs bêtes exténuées. Rouletabille se glissa à bas de son cheval, l'attacha à un gros arbre, s'arma de son revolver et se coula sous les branches. Son pied lui faisait toujours mal. Son épaule le brûlait à nouveau. Mais il n'en avait pas moins une agilité et une souplesse sournoise de serpent. Le moment d'agir était venu, et il ne doutait point du triomphe. Il estimait que la chance, au bout du compte, le favorisait singulièrement. Il allait surprendre des gens sans défense, un homme et 2 femmes. Il était décidé à abattre Andrea comme un chien, et à ne ménager ni Calista ni même Zina si celle-ci lui créait de sérieuses difficultés. Il passait sous un bois de rue, épais, qu'il écorchait de ses épines, l'enveloppait de ses 100 lianes. Avec une patience d'apache sur la piste de guerre, il se débarrassait un à un de ses liens qui l'enserraient, voulait le retenir, semblait lui défendre d'aller plus avant. Il y avait là-dessous une lumière pâle, fumeuse de la transpiration de la terre sous les premiers rayons du soleil. Rien ne le faisait dévier de sa marche, qu'il avait repérée à l'avance en remarquant la disposition de quelques hautes cimes qui couronnaient la futaie de leur chapeau centenaire. Il ne faisait aucun bruit. Il était sûr de ne pas avoir donné l'éveil. Il ne devait plus être loin maintenant de la roulotte. Il s'attendait à entendre des voix. Mais il y eut quelques cris d'oiseaux qui fuyaient à tire-d'aile, et ce fut tout. Un dernier et silencieux effort, la roulotte est là. Tous devaient dormir, bêtes et gens. excepté Odette, peut-être. Rouletabille est maintenant sur la lisière de l'étroite clairière au fond de laquelle s'est arrêtée cette cabane sur roue. Il a en face de lui la porte à double battant, vitrée à mi-hauteur, garnie de rideaux sordides, à laquelle on accède par un escalier, ou plutôt une échelle de quelques marches. C'est ça, la prison d'Odette, le palais de la reine des bohémiens. Et autour de ça, personne. Les bêtes ont été détachées et doivent reposer non loin de là, près de quelques ruisseaux. Rouletabille est à quatre pattes, il se redresse, il a maintenant son revolver en main. Le cœur lui bat fortement. Il se glisse jusqu'à l'escalier et tout à coup, il se jette sur la porte qu'il défonce d'un terrible coup de genou. « Oh les mains !» Personne. La cabane est déserte. La roulotte est abandonnée. Et une phrase, inscrite au couteau sur la paroi de la bicoque, lui fait venir les larmes aux yeux. « Au secours, petits os !» Petits os. Elle savait donc qu'il était là, pensait-il. Ou bien, sans être sûre qu'il fût là, elle espérait qu'il rôdait autour d'elle, attendant le moment propice pour la délivrer. En fin de compte, elle n'avait pas cessé d'espérer en lui. Et c'était lui qu'elle appelait. À cette idée, son cœur impétueux, un instant, cessa de battre. Une sueur froide se répandit sur ses tempes. Ce ne fut qu'une seconde d'étourdissement, et puis il se montra plus fort que son imagination en délire. Au moment de chanceler, il trouva encore le moyen, comme toujours, de s'appuyer sur le « bon bout de la raison ». Qu'est-ce que lui montrait le bon bout de la raison? Un couple d'amoureux, un charmant petit ménage, Odette au bras de Jean, souriant à son épouse, et lui, il marchait derrière, surveillant ce bonheur-là comme un ami fidèle et comme un frère. Ah, certes, elle l'avait ému de toute sa grâce étrange et qui lui rappelait tant de choses. Ivana, Ivana! Toi aussi, fille de l'Orient, tu avais ces yeux et ce sourire plein d'un inquiétant mystère. Et comme Rouletabille l'avait aimé. Allons, allons donc, Odette. Rouletabille n'aimait qu'une image, celle d'Ivana ressuscitée. Mais la petite Odette vivante, Rouletabille ne l'aimait que comme une sœur, une adorable petite sœur fragile qu'il avait le devoir de conserver à son ami Jean. Cependant, avant de la lui conserver, il fallait la lui rendre, puisqu'on la lui avait enlevée. En avant. Il sortit de cette boîte funeste. Déjà, il ne titubait plus. Son émoi était passé. Mon Dieu, elle l'avait appelé « petit zo », comme Ivana, quand celle-ci l'appelait du fond de sa détresse, pour l'arracher à la tyrannie redoutable du terrible Golo. Allons. « Demande pardon à l'ombre d'Ivana, Rouletabille, demande pardon à Jean et sauve ta petite sœur. » Les misérables l'ont emporté comme des loups. Vers quel repère momentané? Voilà ce qu'il faut savoir. Rouletabille a retrouvé la piste des loups, une piste qui fait bien des détours, qu'il suit, qu'il perd, qu'il retrouve, qui le fatigue pendant des heures. Maintenant, il a une forge dans sa poitrine. Tout brûle en lui et autour de lui, et la forêt elle-même paraît embrasée. Il est en pleine sapinière. Sous l'ardent soleil, les arbres montrent leur sève embaumée par les blessures de leur écorce. Rouletabille ne peut plus respirer. Une buée dense et brûlante lui voile le contour définitif des choses. Il se laisse aller, exténué, sur la terre qui lui fait un tapis de ses mille aiguilles d'or. Et tout à coup, voilà qu'au moment où il va fermer les yeux, un homme, dans toute sa force et dans tout son orgueil, se dresse devant lui. Il avait une façon de porter une méchante veste sur son épaule qui donnait à ce vêtement sordide un air de mantelé de cour. Une ceinture rouge où il avait placé des armes étranges faisait plusieurs fois le tour de ses reins. Au-dessus de ses guêtres, Il avait une façon de culotte à franges qui avait peut-être été découpée dans un vieux tapis. Il était magnifique. Rouletabille reconnut Andrea. Il se dressa d'un bond, revolver au poing. L'autre sourit avec dédain. « Que viens-tu faire ici ?» lui dit-il de sa voix de cuivre. « Que nous veux-tu ? Pourquoi nous poursuis-tu ?
Parce que vous êtes des voleurs d'enfants.
Les voleurs d'enfants sont ceux qui nous avaient pris notre reine. Tu ne la reverras jamais. Elle est en sûreté maintenant, tandis que je t'attirais ici. Car j'avais un dernier mot à te dire, un dernier conseil à te donner si tu tiens vraiment à la vie. Retourne vers l'Occident. » Oh ! Fit Rouletabille, nullement impressionné par l'emphase théâtrale du cigain. Vous m'avez déjà tué, et je n'en suis pas mort. L'autre ne répondit pas, tourna lentement sur ses bottes et s'enfonça sous bois en haussant les épaules.
Au fond, il a raison, se dit le reporter qui n'avait pas bougé. Je les ai assez suivis, ces gens-là. Maintenant, je vais les précéder.
5. Où l'on voit réapparaître le livre des ancêtres. Hubert avait sauté sur son cheval et était arrivé comme une flèche à l'auberge. En deux bonds, il fut dans sa chambre, ouvrit son sac et en tira un énorme bouquin que nous connaissons bien et qu'il jeta sur sa table. Il s'assit et feuilleta l'ouvrage dans une fièvre qui lui faisait trembler les mains. Enfin, il trouva ce qu'il cherchait. Le texte de cette prophétie dont il se rappelait à peu près les termes. Il tourna la page suivante manquait. Il se maltraita pour avoir lui-même outragé ce livre, pour l'avoir dégradé comme un barbare, pour l'avoir pillé. Non seulement il lui avait enlevé les joyaux qui en faisaient le plus riche monument de librairie orthodoxe, reposant au fond des sanctuaires, mais encore il lui avait enlevé ses pages les plus rares, que l'art précis des enlumineurs et des miniaturistes faisait acheter à prix d'or par les bibliophiles extasiés. Ah, cette page, que ne donnerait-il pas maintenant pour la posséder? Soudain, il prit une décision, replaça le livre dans un sac, descendit, n'entendit même pas ce que lui disait l'aubergiste, remonta à cheval et galopa d'une traite jusqu'à Newater. Il entra au bureau du télégraphe et rédigea la dépêche suivante. « Stevens, antiquaire, rue de la Boétie, Paris. Avez-vous toujours la page précieuse, enluminée de caractères romanés et ornée de miniatures que je vous ai vendues ?» Il signa et mit son adresse. Le reste de la journée, il le passa à attendre une réponse. Revenu à l'auberge, il s'était jeté sur son lit. Ce que pouvait être devenu Rouletabille, ce qu'étaient devenus les bohémiens, tout cela lui était parfaitement indifférent. Il finit par fermer les yeux, mais il ne put dormir. Enfin, vers le soir, on lui apporta un télégramme, qu'il lut avec avidité, et qu'il serra précieusement dans sa poche. Puis il descendit dans la salle basse. Un voyageur était là, qui venait d'arriver, et qui lui tournait le dos, penché sur un sac de voyage d'où il tirait du linge. Hubert s'assit et frappa sur une table. Le voyageur se retourna. C'était Jean de Santierne. Tous deux se reconnurent en même temps et se trouvèrent en face l'un de l'autre, se dévisageant avec hostilité. Ce fut Jean qui parla le premier. « Comme on se retrouve ! » fit-il de l'air le plus méprisant. « Oui ! » répliqua Hubert d'une voix sourde. « On se retrouve toujours. » À ce moment, la porte s'ouvrit et Rouletabille parut. « Ah, Jean, te voilà enfin arrivé. »« Il me semble que je n'ai pas perdu de temps, » dit Jean en lui serrant la main. « Comment va ta blessure ?»«
Guérie, ma blessure, je la méprise. C'est encore le meilleur remède. »
Puis, se tournant du côté d'Hubert, « Eh bien, dans les circonstances que nous traversons, j'espère que vous êtes enchanté de voir arriver Monsieur de Santierne. C'est moi qui l'ai fait venir. Hier, nous n'étions que deux. Nous sommes trois aujourd'hui. Les bohémiens n'ont qu'à bien se tenir. Allons, messieurs, il s'agit de sauver Odette. Je vous jure que nous ne serons pas de trop pour la besogne. Que l'on se serre la main et que rien n'existe plus pour le moment que le salut de mademoiselle de Lavardan.
Soit, fit Lauriac.
Où en sommes-nous ? Demanda Jean à Rouletabille. Odette !
Nous sommes bons, tout va bien, seulement il faut que nous restions unis. Notre entente est d'autant plus nécessaire que nous allons être obligés de nous séparer.
Moi, je ne te quitte pas, fit Jean.
Alors nous allons être obligés de prendre momentanément congé de monsieur de Lauriac, qui voudra bien agréer la mission de passer la frontière derrière les bohémiens, en ne cessant de les surveiller. De toute façon, nous nous retrouverons à Temesvar.
« Pourrais-je savoir ?» demanda Hubert, inquiet et soupçonneux. « Pourrais-je savoir pour quelle raison nous allons justement nous séparer dans le moment où vous semblez avoir tout fait pour nous réunir ?»«
Il faut que je fasse un petit détour jusqu'à Innsbruck. »
laissa tomber Rouletabille en jetant un regard de coin à Hubert. Celui-ci tressaillit.
« À Innsbruck ?»
« Oui, je rencontrerai là le correspondant de notre journal, qui était installé à Temesvar pendant la dernière guerre, et qui pourra nous donner d'utiles renseignements et de précieuses recommandations. »«
Comme ça se trouve !» fit Hubert.
« Moi aussi, il faut que je fasse un petit détour jusqu'à Innsbruck, et pour la raison la plus sotte du monde, pour y chercher de l'argent. Je dois y toucher un chèque. »
« Si vous avez besoin d'argent, monsieur, » commença Jean.
Mais l'autre l'interrompit net. Il le fixa avec des yeux où brûlait une haine qui ne s'éteindrait jamais.
« Gardez votre argent, monsieur. Je ne veux rien vous devoir. »«
Allons, allons, » fit Rouletabille. « C'est entendu, nous prenons tous les trois le train demain matin pour Innsbruck, et n'en parlons plus. Décidément, la confiance règne. » ajouta-t-il avec une bonne humeur pleine de sous-entendus. « Maître Otto, servez-nous la soupe !» Pendant le souper, Hubert ne desserra pas les dents, tandis que Rouletabille racontait à Jean tout ce qui lui était arrivé depuis qu'il l'avait quitté, et le mettait au courant des derniers événements et de sa poursuite dans la forêt. Jean, en l'écoutant, montrait une impatience fébrile. Il brusqua la fin du repas, et les deux jeunes gens sortirent. « Nous allons faire un tour avant d'aller nous reposer. »
Hubert ne répondit même pas.
« Quel ours !» fit Rouletabille.
« Ce que je ne comprends pas, » gronda Jean dès qu'ils furent loin d'Hubert,
« c'est qu'étant maintenant aussi près d'Odette, tu la lâches pour aller à Innsbruck. »«
Ah, tu ne vas pas recommencer. D'abord, je ne lâche pas Odette, car je ne la tiens pas encore. » Mais je suis sûre de l'avoir à Temesvar, et c'est ce qui devrait te consoler. Maintenant, je vais te dire pourquoi je vais à Innsbruck. Il y a 2 heures, je suis venue à Newwatcher. Je suis parvenue à savoir tout ce qu'Hubert a fait en mon absence, et j'ai soudoyé un agent de la poste qui m'a copié le double d'un télégramme qu'avait reçu notre excellent ami. Le voici.
Alors Jean lut. Est vendu page romanée à Nathan, antiquaire, Innsbruck. Stevens.
Tu comprends ? Fit Rouletabille.
Ma foi, non.
Tu ne comprends pas que même si nous n'y étions pas allés, Hubert se rendait à Innsbruck ?
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous y allons-nous ? Quelle importance a une page romanée ?
C'est juste, admit Rouletabille. Mais je crois que le moment est venu que tu comprennes.
Jean, tu aimes bien Odette.
C'est toi qui me demandes cela.
Eh bien, tu vas tout savoir.
Et il lui apprit tout.
Quand il sut qu'elle n'était pas la fille de madame de Lavardan, mais d'une cigaine, il n'eut qu'un mot. La pauvre enfant.
Rouletabille lui serra la main.
Quand il n'ignora plus rien de l'importance de la tragédie qui se jouait en ce moment et qui devait avoir son dernier acte à Severthorne, il gémit Je mourrai, mais ils ne l'auront pas. » Du coup, il comprenait l'importance du livre des ancêtres et l'urgente nécessité de savoir ce qui intéressait si fort Hubert dans cette page romanée détenue par l'antiquaire d'Innsbruck. Le lendemain, dans la capitale du Tyrol, tandis que Jean et Hubert se faisaient montrer leur chambre dans un hôtel, Rouletabille était déjà chez Nathan, dont la boutique se trouvait dans l'Altstadt, vieille ville. « J'ai appris, monsieur, que vous possédiez un curieux document romanais. »« Très curieux, monsieur, et certainement un des plus anciens qui me soit passé par les mains. » L'antiquaire ne fit aucune difficulté pour le lui montrer. « Combien en voulez-vous ? » demanda Rouletabille en roulant déjà le précieux document. « Hélas, monsieur, il est déjà vendu. Un amateur l'a retenu par télégramme. » Rouletabille ne put s'empêcher de proférer un court blasphème, bien que ce ne fût pas son genre. Mais il n'y avait rien à faire. À toutes ses offres, l'antiquaire ne répondit qu'en remettant le document dans son carton. « Pourrais-je savoir au moins ce que signifient ces caractères ? » lui demanda-t-il. « Je ne sais pas lire le romanais. » Le reporter, très déconfit, arrivait bientôt à l'hôtel où Jean l'attendait. « Nous sommes refaits. Où est Hubert ? Il m'a quitté il y a quelques minutes. » Et quand son ami lui eut conté sa visite chez l'antiquaire, « Décidément, nous n'avons pas de chance, » fit-il. Son admiration pour Rouletabille retombait à zéro. Quelques instants plus tard, Hubert venait les rejoindre. Il avait un petit air satisfait qui en disait long. Comme il se dirigeait vers les deux jeunes gens, un chasseur lui remit une lettre. Il s'arrêta pour la lire. Elle était ainsi libellée. « Méfiez-vous de Rouletabille. Il joue un jeu que tout le monde ignore. Si vous voulez en savoir plus long, soyez ce soir à 10 heures à l'entrée du Parc des Roses. » Ce n'était pas signé. Hubert mit la lettre dans sa poche. « Toi, mon petit, » gronda Rouletabille, qui avait une revanche à prendre sur Hubert. « Toi, mon petit, je vais te surveiller. » À l'heure fixée pour le mystérieux rendez-vous, Hubert se trouvait à l'entrée du Parc des Roses. Une voiture fermée, qui marchait lentement, s'arrêta devant lui. Le rideau de la portière fut baissé, et une jeune femme, qui avait une légère voilette, apparut. Elle lui fit un signe, elle lui ouvrit la portière, et il monta. Puis, la portière fut refermée, le rideau fut baissé, et la voiture continua sa route.